Déjà, il n'y a pas ou peu d'électricité. Vous avez toujours des pannes. Aussi, les transports sont très difficiles. Les routes sont mauvaises. Souvent, il faut une journée pour acheminer le matériel depuis l'aéroport de Bamako jusqu'à l'hôpital. Et surtout en saison des pluies, tout est inondé. Enfin, il y a beaucoup d'autres. Maintenant, il y a d'autres difficultés. Je dois dire qu'ils ont vécu beaucoup de difficultés. Donc, administratives, les gouvernements, les coups d'État. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses dans ces 10 dernières années.
Et vous, du coup, votre rôle au milieu de tout ça, de tout cet élément hospitalier, si on veut bien, c'est quoi ?
Alors, mon rôle, c'est d'amener des enfants maliens jusqu'à l'hôpital au Burkina Faso.
Ce qui n'est pas rien.
Ça prend une journée de route. Souvent, elles sont très mauvaises. Je dois vous dire qu'il y avait une très mauvaise piste il y a 12 ans. Et maintenant, la route est en construction et elle va être bientôt terminée. C'est pour vous dire la longueur des travaux.
Et c'est vous qui conduisez sur ces pistes africaines ?
Alors, au début, c'était moi-même, plus maintenant.
mais dites donc, vous devez être fourbu à la fin de la journée.
Oui, parfois oui. Mais je vous dis maintenant, depuis 2 ans, ça va déjà mieux.
Est-ce que vous n'avez pas eu peur à certains moments, justement, des situations politiques ? Je crois que Daesh aussi a fait parler de lui au Mali.
Oui, ce n'est pas Daesh au Mali, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Bon, c'est du même. Hein. Bon, il y a eu quelques attentats, quelques explosions pas loin de chez moi. Oui, il y en a eu à peu près 200-300 mètres. Je suis restée chez moi.
Est-ce que vous avez peur ?
Bon, pas tellement. Pas vraiment. Bon, j'ai quand même fui 2 fois sur les conseils et même les injonctions de l'ambassade de Suisse. Il fallait quitter les lieux, mais enfin, ils sont arrivés une fois jusque-là, mais quand même pas plus loin.
On en parle évidemment beaucoup quand il y a ces attentats, ces explosions ici en Suisse ou on va dire dans le monde occidental. Est-ce que dans le quotidien des gens là-bas au Mali, c'est aussi quelque chose qui rentre dans les discussions quotidiennes ?
Ah oui, tout le temps, parce que cette région était économiquement en développement, enfin, il y avait même beaucoup de touristes. Et ça permettait aux gens de nouer les deux bouts, enfin, de compléter leur travail d'agriculture pour vivre, pour pouvoir vivre. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y en a plus aucun.
Le pays a dû beaucoup changer entre le moment où vous l'avez découvert et puis aujourd'hui où vous le vivez.
La vie quotidienne, pas tellement. Sauf que, économiquement, c'est beaucoup plus difficile pour les gens.
Vous avez parlé tout à l'heure des Tibétains, notamment. Les Tibétains, c'était bon, il y a longtemps, ok, d'accord, mais vous avez encore des souvenirs, c'était comment le Tibet enfin...
Avant l'arrivée de la Chine et ses gros pieds.
Alors, je ne suis pas allée au Tibet. Je suis allée dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, qui est le village de séjour du Dalai Lama. C'est là que j'ai travaillé. Et là-bas, bon, j'étais laborantine avant, alors j'avais formé des agents de santé capables de faire quelques analyses de base à l'hôpital de Dharamsala.
Vous avez rencontré
le
Dalai Lama ?
Oui, oui.
C'est quelque chose que, sans doute, enfin, d'après ce que je ressens, quelque chose qui vous tenait à cœur.
Oui, bon, j'étais pas tellement là-bas pour suivre les cérémonies religieuses et tout ça, bien que j'ai été très très souvent invitée à leurs cérémonies. Mais voilà quoi, je ne suis pas partie là-bas pour faire le parcours des gens qui veulent vraiment devenir des bouddhistes. Je ne suis pas une bouddhiste acharnée, je tue les mouches et je mange la viande.
Le Dalai Lama, vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec
Oui, quelques mots, oui. Oui, parce que je travaillais donc dans l'hôpital qu'il a fondé et je devais mettre en route un labo et en même temps former les agents qui partaient à plusieurs endroits dans le pays. Et ensuite, j'ai pris la décision, enfin avec eux, ils m'ont demandé de les visiter pour leur mettre en route leur labo dans différents villages de l'Inde où ils sont réfugiés. C'était un travail très intéressant.
Comme on parle ici en Occident de ce qui se passe là-bas, ça correspond à la réalité ou pas vraiment ?
Bon, c'est difficile après 20 ans, 25 ans de le dire, mais on dit qu'il y a encore toujours des déplacements de population par rapport à la Chine, à la politique. Mais c'est vrai qu'on voit des choses là-bas qui sont parfois un peu différentes de ce qu'on écrit ici. Par exemple, certains réfugiés tibétains viennent en Inde souvent et bon, ils ne viennent pas toujours en tant que chassés du Tibet, mais quand même il y en a et il y en a beaucoup.
Alors, entre l'expérience au Tibet, ce que vous vivez au Mali, la Yougoslavie, tout ça, vous avez vu la politique, vous avez vu la misère, vous avez vu la guerre, vous avez vu un peu tout ce que nous, ici, dans notre petit confort jurassien, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement de vie ?
Qu'est-ce que j'en retire ? C'est pas toujours, on ne voit pas toujours la guerre quand même, on voit aussi des bonnes façons de vivre, tranquilles. Enfin, il y a de tout, c'est tout un mélange. Il y a de la diversité, quoi. Il faut accepter, il faut favoriser la diversité, c'est tout. Look at, look at,